Et jeudi dernier, le Kazakhstan a annoncé qu'il rejoindrait les accords d'Abraham, un processus qui en 2020 avait vu plusieurs pays arabes normaliser leurs relations avec Israël. Une décision qualifiée de réel progrès par le président américain Donald Trump. Cette décision du Kazakhstan de rejoindre les accords d'Abraham. On analyse tout cela avec Daniel Haber. Il est, comme d'habitude, au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, on l'a appris un jeudi, Donald Trump s'est réjoui de l'annonce de l'inclusion prochaine du Kazakhstan dans les accords d'Abraham, un processus qui en 2020 avait vu plusieurs pays arabes normaliser leurs relations avec Israël. Le président américain a par ailleurs affirmé qu'une force internationale serait déployée très bientôt à Gaza. Alors justement, le Kazakhstan et les accords d'Abraham, quelle est votre analyse là-dessus, Daniel ?
Donc, il dit que je rejoins les accords d'Abraham. Bon, ils ont l'Indonésie et l'Azerbaïdjan, qui sont précisément des pays qui voudraient participer peut-être même en particulier, tant fait le pêcheur de stabilisation qui m'a rentré dans Gaza prochainement. Donc, c'est un très bon signal pour Israël que des pays de la région du Moyen-Orient, musulmans mais pas arabes, aient envie de rejoindre les accords d'Abraham parce que ça donne de la force à ces accords. En ces accords, bon, on a quand même une petite ambiguïté là-dessus parce qu'on dit beaucoup de pays font partie de ça. Pas du tout. En fait, pour l'instant, les seuls pays qui sont vraiment entrés dans les accords d'Abraham, c'est les États arabes unis. Bahreïn, qui était pétrolier à côté, et puis le Maroc, qui n'est plus dans la région. Et puis il y a le Soudan, mais le Soudan, le gouvernement qui a signé l'accord d'Abraham a été renversé, maintenant c'est une guerre civile, enfin, le Soudan n'existe pratiquement plus. Donc il y a pas de pays qui font les accords d'Abraham. Pourquoi ? Parce que les accords d'Abraham, c'est pas seulement établir avec Israël des relations diplomatiques, c'est pas seulement signer un traité de paix, c'est montrer une volonté de travailler avec Israël, de coopérer. Si vous prenez par exemple l'Égypte et la Jordanie qui ont signé des accords de paix, qui ont des relations diplomatiques avec Israël, ils sont pas dans les accords d'Abraham. Ça veut dire que cette paix avec eux, elle est froide et il n'y a pas cette volonté de coopération. Donc si on veut vraiment développer les accords d'Abraham, il faut d'abord que l'Égypte et la Jordanie rejoignent les accords d'Abraham. Et puis après, il faut venir, notamment aux pays arabes de la région, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et puis Oman, qui est juste à côté. Donc, si vous voulez, le processus est assez lent et au fond, c'est tout l'objectif des accords qui ont été signés le 15 octobre à Sharm el-Cheikh de relancer un processus de paix qui serait fondé au fond sur les accords d'Abraham, c'est-à-dire qui lierait Israël avec le plus possible de pays arabes et de pays musulmans dans le monde pour faire deux choses, et c'est ça qu'il faut comprendre, coopérer économiquement de façon une sorte d'union économique pour que la technologie israélienne soit financée par les pétrodollars de tous ces pays-là et pour permettre un développement en commun et sortir du sous-développement à un certain nombre de pays. Et deuxièmement, c'est une coalition face à l'islamisme. Et l'islamisme, il est représenté aujourd'hui par, d'une part, l'Iran, c'est la branche chiite de l'islamisme, et par la Turquie, et la branche sunnite, c'est des frères musulmans, de l'islamisme. Donc, on pense que tout en train de se constituer, c'est un front anti-islamiste, par l'Orient, en Israël et les pays arabes qui répliquent l'islamisme et qui seraient tous la garantie de sécurité américaine.
Ouais, justement, hein, Daniel, vous parlez de ces accords Abraham. Ils ont un lien avec les accords de Sharm el-Cheikh et un lien avec les accords de paix, n'est-ce pas ?
Les accords de Sharm el-Cheikh. La première fois, c'est la récupération de tous les otages. Alors, quand c'est en cours, on a quand même récupéré tous les 20 pages vivants qui étaient issus depuis 6 mois. Donc, on a perdu aucun en cours de route. Donc, ça, c'est une première nouvelle qui est déjà, au fond, intégrée, qui est déjà du passé. Et on se polarise aujourd'hui sur la restitution des soldats décédés. Et là, on a du mal à faire la part entre, évidemment, le jeu pervers du ramasse et la difficulté effective peut-être de retrouver certains corps. Mais pour l'instant, Israël gère cette situation qui est évidemment difficile. Il faut jamais oublier que Saad n'est pas sortie de Gaza. Elle est replignée derrière ce qu'on appelle la ligne jaune, qui est la moitié de Gaza. Donc, il y a une moitié de Gaza en longueur qui est libre de ça, mais dans laquelle vivent les populations, mais dans lequel, dans cette région, dans ces 50% de Gaza libérés par Tsahal, le Hamas se promène aujourd'hui. Il est sorti du tunnel, il parade, il essaie de reprendre la main sur ce petit territoire. Il procède à un certain nombre d'épurations, plus ou moins arbitraire, et puis surtout il veut mettre la main sur la distribution d'aide alimentaire, ce qui oblige Israël à contrôler et à limiter donc l'entrée d'aide alimentaire. Tout ça est une situation qui est très pesante pour Israël parce que ça oblige à mobiliser les troupes, et puis ça alimente toutes les campagnes anti-juives, anti-israéliennes et antisémites dans le monde, surtout à propos de l'aide humanitaire, où là les ONG continue de jouer un jeu pervers en accusant Israël de tous les maux, alors que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est distribuer de l'aide alimentaire en utilisant le Hamas. Et donc, ils renforceraient encore le Hamas. Donc, on voit que cette période, cette phase 1 qui aurait dû se terminer rapidement, en fait, est une phase qui continue à être en tension et qui oblige à mobiliser. Mais tout. Et en fait, la clé des accords de Sharm el-Sheikh, c'est la phase 2. C'est le désarmement du Hamas. C'est ça la clé. On peut pas aller à la phase 3 qui justement, qui est la reprise des accords d'Abraham, l'établissement d'une sorte d'organisation de paix durable dans la région, si on ne désarme pas le Hamas. Ce désarmement du Hamas, tout le monde est d'accord pour l'obtenir, parce qu'on sait que tant que Hamas sera là, rien ne sera possible. Donc tout le monde est d'accord, sauf que la seule façon de le désarmer, dans la mesure où les Américains ne souhaitent pas qu'Israël poursuive la lutte contre le Hamas, c'est de trouver une tierce entité, et c'est cette fameuse force de stabilisation. Alors on sait que les pays arabes eux-mêmes ne sont pas pour participer à cette chose, parce que ça serait des Arabes qui entreraient éventuellement en conflit avec d'autres Arabes, qui seraient les Palestiniens, et donc ça mettrait en colère, au fond, les opinions publiques, dont tous les dirigeants au beurre. Et donc, on va chercher d'autres musulmans, pas Arabes, donc d'où l'Indonésie, l'Azerbaïdjan, peut-être le Kazakhstan, qui, pour payer son entrée dans les camps d'Abraham, on dirait, écoute, nous, qui est demandé par les pays arabes, qui sont les propriétaires de ces accords, ou les permetteurs, ou ne peut pas pour être démis par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, on est en train de négocier une résolution du Conseil de sécurité, mais elle ne sera pas votée avant le mois de janvier, un mieux. Ça veut dire que toute cette planète du mois de décembre et du mois de janvier, on va vivre au sein d'un camp des pipounes, où il y aura la tranquille victoire, même si c'est une victoire, évidemment, qu'ils ont payé très cher, où ils seraient obligés d'être vigilants, où les campagnes de désinformation contre Israël continuent de se développer. Donc c'est une période très lourde, et on comprend que tout ça fasse douter, au fond, du succès de ces accords de Sharm el-Sheikh. Moi, je crois que ces accords iront jusqu'au bout. Il faut juste être patient et il faut vraiment tout miser sur cette force de stabilisation, en espérant par exemple que l'Indonésie, qui est un pays qui dispose d'une grande puissance militaire, beaucoup de soldats, beaucoup de pratiques militaires et qui, malheureusement, il parle pas arabe, mais il y aura une chance. Il y aura un comité d'interposition qui jouera les intermédiaires. Et donc, il faut attendre janvier, malheureusement. Mais donc, on va passer une fin d'année difficile. Et Israël est obligé de rester extrêmement vigilant sur le climat jaune. Et donc, comme beaucoup de derbys vont être encore mobilisés, le passé est une nouvelle qui pèse et qui réduit évidemment la joie des Israéliens d'avoir pu récupérer au moins les otages vivants. Voilà, je vous laisse, c'est une situation intermédiaire, délicate, et il faut de la patience et de la résilience encore.
Et on aura l'occasion de l'analyser cette situation dans Conversation tous les lundis matins sur Radio Judaïka dans la matinale. Merci beaucoup Daniel Aber d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve lundi prochain.